Quel sentiment tu ressens?
J'aimerais faire une introspection.
Trouve-moi un dictionnaire, regarde l'introspection. S'il nous envoie ça à travers la gueule, je veux savoir ce que c'est.
Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs de l'oreille curieuse, bienvenue dans le prêt-à-penser. Je suis Nicolas, psychologue clinicien, et aujourd'hui, j'ai une pensée pour les bacheliers qui préparent les épreuves à venir dans ce mois de juin, et notamment les épreuves orales. Car ce soir, j'ai choisi de vous parler de la timidité quand il s'agit de parler en public. Pour les bacheliers, il va s'agir de parler devant un jury, mais sans être bachelier, il peut arriver à beaucoup de gens de ressentir une certaine inhibition à prendre la parole en public. Essayons donc de regarder cette inhibition de plus près. Embarras, confusion des idées, rougeur, tête baissée, les réactions corporelles dans ces situations inconfortables peuvent évoquer de façon assez surprenante la culpabilité. Mais de quoi donc peut-on se sentir coupable en public alors qu'on n'a a priori rien à se reprocher? Et d'ailleurs, pourquoi, alors qu'il s'agit de dire la même chose dans une situation comme dans l'autre, pourquoi est-on inhibé devant plusieurs personnes et beaucoup moins devant une seule? Eh bien, je vous propose de nous pencher, comme élément explicatif, sur la notion d'image, et plus particulièrement, l'image de soi. Parce que la différence est là. En tête-à-tête, on a une plus grande maîtrise de son image pour l'autre, une plus grande maîtrise de ses indices communicationnels, et donc on peut plus facilement réajuster ce que l'on donne à voir en fonction de ce que l'on croit perçu par l'autre. En public, on ne saurait pas où donner de la tête pour faire de même. Il est donc nécessaire de faire le deuil d'une certaine maîtrise de son image. Il est impossible de saisir tous les regards, impossible de brancher son regard et d'enclencher une réciprocité rassurante avec une multitude. Être observé par plusieurs individus fait donc courir le risque d'être vu autrement que comme cette image qu'on donne à voir habituellement. On peut être vu sans voir et percé à jour sans le savoir. Il existe d'ailleurs une expression qui dit « être transpercé du regard ». Sans compliquer trop les choses, j'irai un peu plus loin et dirai que ce qui peut provoquer le plus d'angoisse dans cette situation, ce serait non pas d'être vu tel qu'on est vraiment, au-delà de l'image qu'on donne à voir, mais plutôt d'être vu tel que l'autre peut nous voir sans qu'on le sache. Je vous accorde que c'est un peu tarabiscoté, mais rappelons-nous ce que nous avons déjà évoqué lors de précédents prêt-à-penser au sujet de l'inconscient. Et résumons-le par le fait que quelque chose de nous-mêmes nous échappe tout le temps. Et ce quelque chose qui nous échappe, il nous échappe d'autant plus quand on prend la parole. Car la parole a ceci de particulier, que quand on parle, tout en parlant de quelque chose, on se raconte toujours un peu. Et il n'est pas rare qu'un mot puisse nous échapper, jusqu'à nous surprendre nous-mêmes d'ailleurs, dans le cas du lapsus. Eh bien, c'est précisément ce qui nous échappe de nous-mêmes que nous cherchons en permanence à cacher à l'autre. C'est même à ça que sert l'image de soi que l'on donne à voir. C'est un os à ronger que l'on jette à l'autre pour qu'il n'aille pas plus loin. Cette métaphore fait de l'autre un carnassier avide de dévoration. C'est oublier que l'autre, tout jury qu'il soit, dans le cas des épreuves orales, est exactement dans la même situation d'avoir quelque chose à protéger qui lui échappe. Il est vulnérable également. D'ailleurs, le fait de se rappeler la vulnérabilité de l'autre, la similarité de ses angoisses avec les nôtres, est une méthode de réassurance très utilisée et assez efficace parfois. N'avez-vous pas déjà entendu le conseil d'imaginer les autres tout nus pour vaincre la timidité devant un groupe lors d'un exposé? Alors bien évidemment, si cette astuce peut se révéler plus ou moins efficace ponctuellement, il y a peu de chances qu'elle fasse ses preuves sur le long terme. Il s'agira plutôt de chercher à assumer cette faillibilité plutôt qu'à vouloir la dissimuler. L'assumer en tant que composante inhérente de notre humanité et non pas, souvenons-nous des réactions honteuses qui provoquent la timidité, comme quelque chose mettant à mal notre légitimité à prendre la parole. En 1971, dans un ouvrage qui s'intitule « Guérir la vie », Roger Gentis, éminent et regretté psychiatre appartenant au courant de pensée dont je me sens personnellement le plus proche, a écrit un passage qui relève de ce qu'il appelle le droit à la connerie. Je me propose de vous le lire pour conclure ce prêt-à-penser à toute fin utile. Pour que les gens parlent, il faut aussi qu'ils osent parler. Ça aussi. Ça a l'air de rien et pourtant c'est quelque chose le nombre de gens qui n'osent pas l'ouvrir. Il n'y a même pas besoin de les empêcher. Ils se la coupent très bien tout seuls et ils trouvent toutes sortes de bonnes raisons pour pas se faire entendre, que de toute façon on les écoutera pas, que ça servira à rien. Et le jour où ils sont un peu sincères, ils finissent par avouer qu'ils ont peur qu'on se foute d'eux, qu'ils ont peur de dire des conneries. Comme si tout le monde en disait pas des conneries. Comme si dans tout ce qu'on débite, il n'y avait pas 90% de conneries en moyenne. J'évalue ça en gros et vous m'en voudrez pas si je tombe un peu en dessous de la vérité. Et puis, qui c'est qu'en juge que vous dites des conneries? Qui c'est qu'en décide que c'est des conneries? C'est toujours la même histoire. Au lieu de constater tout bêtement que les valeurs, c'est ni plus ni moins des mirontons comme vous et moi qui les font, aussi plats, aussi cons, aussi limités que vous et moi et sûrement pas infaillibles, les gens, ils ont toujours derrière la tête, ce qui fait qu'ils peuvent même jamais le voir en face, ce modèle idiot de comment le monde est fait, qu'il y a quelque part dans les hauteurs une espèce de dépôt des poids et mesures, où ce qu'on trouve les étalons de tout ce qu'il faut dire et ce qu'il faut pas dire, de ce qu'il faut penser et de ce qu'il faut pas penser, et toutes les fois qu'il voudrait en sortir une, il se demande ce que l'étalon va en dire, si elle sera à la bonne longueur ou si elle va pas avoir l'air trop minable. Alors 9 fois sur 10, après avoir bien réfléchi, ils préfèrent la rentrer en douce, ils ont peur d'avoir l'air con. Moi, si je refaisais les droits de l'homme, qui commence à en avoir bien besoin, celui que je mettrais avant tous les autres, parce que c'est le plus fondamental et c'est peut-être le seul qui pourrait vraiment changer la vie, c'est le droit à la connerie. Le jour où chacun en sera pénétré, le jour où chacun sera décidé à l'exercer, vous pouvez pas imaginer ce que le monde sera plus heureux et plus détendu et plus aimable aussi. En attendant, faut continuer à avoir l'air intelligent, parce qu'on s'emmerde.
Ça va mieux ?
Eh, beaucoup mieux.
Super.